Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr dans une pièce très très large hein, parce qu'il faut respecter le confinement avec Damien Hensen, Olivier Royer et Nathalie Allard. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Nathalie, je vais commencer par toi, c'est pour ça que je t'ai présenté en dernier. Et on vient pour compléter un premier interview à retrouver sur RDWA où il était question de distribution de paniers de producteurs devant l'espace social auquel Olivier était présent. Et on voulait savoir d'où vient cette initiative et il semble qu'elle vienne de gens qui ne sont même pas producteurs. Nathalie, raconte-nous un peu.
Alors cette initiative est partie en fait d'une discussion tout bêtement. Au bout de quelques jours de confinement, on était chacun retranché chez soi à se dire « bon, qu'est-ce qui nous arrive un peu en pleine poire ? Comment on agit ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Je pense qu'il faut quand même que je présente un petit peu d'où je parle et ce qui s'est activé en moi un petit peu. Donc j'ai un peu la double casquette de... J'ai une expérience en fait en agriculture. J'ai porté un projet d'installation en agriculture. J'ai travaillé dans les champs, j'ai été bergère aussi chez les Meuraux. Voilà, donc j'ai un peu ce vécu-là. Et j'ai aussi une autre casquette qui est celle de coordinatrice de projet en solidarité internationale. Enfin bref, j'étais chef de projet dans l'humanitaire. Et donc quand tout ça est arrivé, eh bien mes antennes se sont mises à vibrer fortement.
Et tu travailles pour le lycée de Die qui fait rien en ce moment. Je suis tendillé.
Alors oui, exactement, c'est important de le noter. Actuellement, je suis en poste à la cité scolaire. Et comme donc plein de gens, je me suis retrouvée à travailler, en tout cas en présentiel, beaucoup moins. Mais on a continué à travailler, hein, toutes les équipes du collège. Voilà, mais peut-être... par rapport aux 45 heures par semaine, je suis passée à 10, quoi. Ouais. Donc j'avais effectivement du temps. Et ça, c'est important de le dire, c'est que les gens qui ont pu se mettre en action aussi pendant cette période, finalement, c'est qui ? Moi, j'avais du temps. Et j'ai aussi la chance d'être payée pendant ce temps-là. Donc assez disponible pour réfléchir sur toutes ces questions. Et donc, moi, je me suis tout de suite dit, oulala, alerte, on est tous confinés. Comment... ça c'est mon côté un peu chef de projet sur les questions de sécurité alimentaire. J'ai cette expertise-là. Je me suis dit, là, il y a un risque énorme, c'est la coupure des circuits d'approvisionnement.
Est-ce que tu as eu peur toi-même pour toi ?
Oui, au début, oui, bien sûr. Ouais. J'étais sous le choc de cette crise qui arrive très soudainement. On se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette maladie ? Oui, on a peur au début, ça c'est clair. On prend des informations dans tous les sens. Donc il y a eu quelques jours où j'étais... en tout cas, j'étais un peu coupée dans mes moyens, ça c'est clair, quoi. Et justement, c'est dans ces moments-là que tu prends le téléphone, t'appelles les uns, les autres, et tu partages, quoi. Et dans ce partage-là, je discutais avec une bonne copine à moi sur mes inquiétudes, notamment sur la sécurité alimentaire du territoire, en disant, bon voilà, si la crise est énorme et qu'elle touche à un moment donné, eh bien les transporteurs, tout bêtement, et que les camions ne peuvent plus monter de la vallée, comment on bouffe ? Ça, c'est la question côté consommateur. Comment on a accès, en fait, à une nourriture saine, en quantité suffisante, et puis pour tout le monde, quoi. Et puis de l'autre côté, comme j'ai été paysanne à mes heures, je me suis dit, oulala, et les copains là qui sont dans les champs, les salades sont en train de pousser, les brebis donnent du lait plein pot, les chèvres aussi. Si les marchés sont fermés demain, si les magasins sont fermés, comment les paysans vont écouler leurs stocks ? En gros, comment on va se nourrir ? Comment du consommateur au producteur, les liens continuent à exister ? Voilà. Et c'est là que, dans la discussion, ma copine m'a dit « vas-y, propose quelque chose ». Et là, tu proposes quoi ? Tu prends ton téléphone et t'appelles les copains producteurs et tu tâtes le terrain. Tu dis « voilà, qu'est-ce que vous vivez ? Comment ça se passe pour vous ? Si on coupe les marchés, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont vos moyens pour vous retourner ?» Voilà, et tu commences à prendre les infos à droite à gauche. Ça allait assez vite. Très vite aussi, donc j'ai eu Olivier qui est là, directeur de l'espace social, au téléphone, en lui disant « Bon, il va falloir qu'on bouge, il va falloir qu'on monte quelque chose, qu'on propose. » Et lui, il m'a tout de suite dit « Nous, l'espace social, on a les camions, on a les ressources humaines, on vous appuie. »
On s'ennuie aussi.
Quel que soit, quelle que soit la solution que vous dessinerez, on sera là en appui. Donc il y a bien ce triptyque, et ça c'est important de le noter, à la base de citoyens qui se posent des questions. Et très vite, hein, on l'a vu, les citoyens se sont mis à faire des groupes WhatsApp, à monter le réseau Covid au niveau national, mais aussi au niveau local, Covid Entraide d'Iwa. Ces réseaux-là sont hyper puissants, en fait. Tout de suite, il y a des gens qui se disent « Bon, bah voilà, moi, je suis dispo, moi, je propose ça, moi, je propose ça, voilà. » Il y a ces citoyens, il y a le lien avec les producteurs qui permet de définir aussi clairement qu'est-ce qui se joue pour eux et quels sont leurs besoins, quelle est leur réalité, comment ils s'adaptent aussi à cette situation. Il y a un partenaire local fort. Et puis, il y a des compétences aussi qui se mettent un peu en branle, et notamment aussi Damien Morel, qui techniquement a été en mesure de monter le site internet qu'on a monté. Voilà comment le truc est parti. Sachant qu'à la base, il y a bien la définition, ça c'est la clé, des besoins. Besoin côté producteur, besoin côté consommateur. Parce que après avoir appelé plusieurs producteurs, donc il était clair qu'il fallait faire quelque chose. Là, tu vois, tu vérifies que les besoins, ils sont bien là. OK, ouais, vous avez besoin de soutien. On a défini quel type de soutien ils avaient... De quel type de besoin ils avaient... De soutien ils avaient besoin, pardon. Et à un moment donné, je me suis dit quand même, bon, attends, quels sont les besoins réels de la population? Et c'est là qu'on a lancé une enquête qui, en 24 heures, a recueilli 355 réponses quand même. Et là, je me suis dit, ah oui. OK, il y a un réel intérêt côté consommateur aussi, une réelle inquiétude. Et ce qu'on est en train de cogiter va répondre réellement à des besoins sur le territoire. Voilà, il y a eu tout ça qui s'est mis en place assez rapidement, je dois dire. Alors, il est important de noter aussi que si ça s'est mis en place aussi rapidement, c'est quand même parce qu'on se connaît, parce qu'en fait, on a des liens préexistants. Et parce qu'il existe sur ce territoire en fait un historique, un tissu de liens forts en fait quoi. Tu prends le téléphone, t'appelles, Damien Hansen qui est là, qui est producteur, on se connaît d'avant, il y a une confiance qui est là, une légitimité qui est là. Avec Olivier c'est pareil, avec plein de producteurs c'est pareil, parce que je suis un peu du milieu aussi et je pense que le contact a été facilité par ça. Ça, c'est important de le pointer parce que je pense que en réponse à des crises aussi soudaines où il faut agir dans l'urgence, ces liens préexistants en fait sont très puissants. Il faut les faire vivre pour pouvoir affronter les prochaines crises.
On pourra questionner cette légitimité un peu plus tard. Damien, je me tourne vers toi. Tu es producteur de champignons dans la vallée de Quin. Une niche, hein, c'est très particulier le champignon. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire... qu'est-ce que tu as vu arriver, toi, avec cette crise? Est-ce que tu le voyais comme un vrai problème? Quels soucis tu allais avoir? Et donc, pourquoi, finalement, tu t'inscris dans une démarche comme celle-ci?
L'entrée, elle a été très rapide. C'est l'annonce de la suppression des marchés qui a provoqué chez tous les producteurs qui sont en vente directe un besoin urgent de trouver des solutions, puisque on est sur des marchandises qui se périment quand même assez vite, qu'il fallait couler tout de suite, quoi. Et c'est là où c'est vraiment chouette, et ça corrobore ce que dit Nathalie, c'est que nous, en nous posant la question de comment on peut faire pour écouler notre marchandise, on pense à l'idée de pouvoir faire des commandes en ligne avec des retraits à dit, et puis voilà, en fait, ça au moment où on s'en parle, on s'aperçoit que c'est déjà dans la tête d'Olivier, de Nathalie, que c'est déjà en cours, donc c'est super. Nous, voilà, l'entrée, elle est vraiment sur comment on maintient de la... l'écoulement de notre marchandise, entre guillemets, pour plusieurs raisons. Une première qui est de continuer à pouvoir vivre et de ne pas avoir de trous de trésorerie, de ne pas jeter aussi, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'à l'idée de jeter ce qu'on s'est échiné à produire, quoi. Et ça, c'est dans le domaine de l'urgence. Mais ce qui est chouette, c'est que passer ce moment de l'urgence-là, je pense que ça questionne, ou en tout cas, ça nous fait reprendre conscience de la manière dont on commercialise, qui est très différente de celle de vendre... à des grossistes, ou voilà, notre manière d'être en circuit court, voilà, de cette préciosité du lien. Et moi, en tout cas, ce que j'en retiens là Cette date, c'est l'énorme solidarité et c'est la conscience qu'il y a chez les Diwa qui est énorme, quoi, en termes de conscience de leur territoire, des réalités. Il y a eu un élan énorme, quoi, Val-de-Quin, une petite asso là, qui anime la vallée sur les questions économiques, sociales et culturelles, voilà, qui propose de mettre en place des relais paysans. Paf, en une semaine, c'est fait. Enfin, c'est génial et je pense que on peut en être fier aussi, quoi, d'avoir cette clientèle qui est en fait plus qu'une clientèle, ce truc de consommateur, hein, j'aime pas ce mot un peu débile, en fait, le Diwa, on est très bien peuplé parce que les gens arrivent à connecter un peu toutes ces réalités. Et dans leur achat, ils arrivent à faire jouer les dimensions qu'on a tous un peu, qui nous tiraillent tous, notre dimension citoyenne, notre dimension consommateur, notre dimension salarié. À chaque fois, on essaie de trouver un truc qui satisfait un peu tous nos tiraillements. Et dans le Diwa, il y a ça, quoi.
Est-ce que c'était le cas avant ou tu trouves ça nouveau ?
Moi, j'ai l'impression que ça amplifie un petit peu. Je pense que ça. Et en même temps, on a vu arriver des nouveaux clients. Je pense qu'on a vu arriver des nouveaux clients. Il y avait nous, ça fait pas longtemps qu'on commercialise, ça fait qu'un an et demi. Mais depuis le début, on a vraiment ce sentiment que il y a cette question d'approvisionnement local touche vraiment très très large. Et touche plus large que les questions de bio, par exemple, ou pas, ça touche vraiment beaucoup plus large sur cette notion de l'argent que nous, on va gagner en vendant nos champignons, en fait, on le dépense ici. Et donc, on fait vivre la boulangerie, on va consommer local et tout. Et donc, voilà, cette idée que l'argent circule ici un peu en circuit fermé et profite à pas mal de monde. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a amplifié un peu ce truc-là avec des nouveaux clients. Avant, je ne prenais pas forcément le temps. Et puis là, j'ai eu le temps de faire ma petite commande. Je trouve que vos produits sont chouettes. Et puis, je m'y habitue et je remplace le champignon de Paris polonais par un champignon local qui n'a pas le même coût, mais qui n'a pas le même impact ni écologique, ni le même impact économique sur nos vies, quoi.
Si ça n'avait pas été mis en place, qu'est-ce que tu as envisagé ?
Sur le coup, il y a eu une explosion de la demande. Donc, ce qui était très étonnant, là, à l'annonce du confinement, les gens ont fait plein de courses, tous les magasins étaient dévalisés, donc il y a eu un effet, il y a eu ce pic énorme. Tout le monde a fait trois fois Noël, en gros. Les magasins ont fait trois fois l'équivalent d'une vente de Noël, donc complètement délirant, puis c'est retombé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Le marché s'arrête et tout, donc là, il y a un peu panique. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Il n'y a pas 36 solutions. Il y a la possibilité d'aller voir des grossistes, mais la vente des grossistes, elle fait super mal pour des gens comme nous, parce qu'ils nous font diviser nos prix par deux, quoi. Donc on ne gagne pas d'argent. Au moins, on ne jette pas. Voilà. Mais non, sinon on l'aurait donné. Je ne sais pas ce qu'on en aurait fait. Nous, ça nous est pas, la question ne s'est pas posée. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon petit coup de flip sur.
Si à la fin de la pérennité
du projet. Ouais, alors, je ne sais pas, pas faire de généralité, mais dans notre cas, je trouve qu'on est quand même bien accompagné. Il y a quand même tout de suite la chambre, la MSA qui a suspendu les cotisations, tout de suite les banques qui ont arrêté notre banque en tout cas qui a arrêté les crédits. IVDD, Initiative Val-de-Drôme, qui nous fait du microcrédit, tout de suite a arrêté les prélèvements. Je pense qu'il y a eu 20 000 réalités différentes. La nôtre, elle est que, moi, je me suis dit, c'est cool. Alors, je ne sais pas si c'est la proximité qu'on a, le fait qu'on ait une petite exploitation et qu'on est tout jeune, qu'on est fragile aussi, mais entre l'élan citoyen, les pouvoirs publics, ça a été plutôt, plutôt chouette, quoi. Mais bon, c'est notre cas. Après, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais...
Alors, il y a une autre initiative qui est intéressante, c'est que tu as monté l'annuaire des producteurs. Alors, tu y as participé, mais du coup, je reste sur cette question. Est-ce que les autres producteurs, tu en connais, pour qui leur réalité aurait pu être bien différente de la vôtre, ou les aides ne tombent pas ?
Ouais, complètement. Et notamment, je pense, les chevriers, enfin, ceux qui travaillent le fromage, quoi, assez frais, quoi, ils peuvent pas forcément... ils peuvent en passer une partie en tome, enfin, du fromage à long terme, entre guillemets. Mais eux, je pense que ça a été super, ouais, notamment les picodons, où c'était le tout début de... Ça repartait tout juste, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y avait les maraîchers qui arrivaient juste après. Les maraîchers, moi, on pensait à eux en priorité pour l'annuaire. Quand on s'est appelé avec Nat et avec Damien, c'était à eux auxquels on pensait. Parce qu'on disait, ils ont tous des milliers de salades qui arrivent là dans 2-3 semaines. Les salades, voilà, quoi. Faut la vendre tout de suite, c'est compliqué à stocker. Nous, les champignons, on a quelques jours, les fromages, il y a quelques jours, on peut jouer un peu au tampon, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la perte dans tous les cas, hein, sur des produits frais. Donc, cet annuaire, en tout cas, des retours qu'on a, il a permis aussi d'avoir au tout début, on recevait pas mal de messages, il y a beaucoup de gens, mais ouais, on ne sait pas où trouver les. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'on vit tous un peu dans nos petites communautés et tout ça, et dans nos cercles. Et là, on a repris conscience que bah voilà, il y a plein de gens qui viennent jamais au marché, des gens pour qui c'est pas dans leurs habitudes le circuit court, quoi, que ça emmerde, qu'on pas que ça a à foutre, qu'ils font autre chose. Enfin, voilà, on a tous nos habitudes chacun. Et là, cette crise a un peu rabattu tout ça, quoi. Ah, comment je pourrais m'amener? Et pour des raisons différentes. J'ai envie de soutenir, ou ben voilà, j'ai le temps de me faire des bons gueuletons, donc je vais changer mes trucs. Et s'il y a un truc à retenir de chouette, entre guillemets, de cette crise, c'est ça, c'est que ça remet en cause un peu nos habitudes. Et donc, du coup, dans les comportements, clairement, il y a eu des changements, quoi.
Est-ce que cet annuaire rassemble tous les producteurs?
Alors, c'est complexe, hein. Ce qu'il faut pas oublier derrière les producteurs, c'est que. Enfin, les producteurs, ça n'existe pas. On est tous des réalités très différentes. Il y en a en circuit court, il n'y en a pas. On est tous très, très différents, quoi. Il y en a qui aiment bien vendre au marché, il y en a qui ça emmerde, il y en a qui aiment bien les clients. Non, enfin voilà, il faut bien voir qu'on nous met un peu dans des catégories, ce qu'il faut. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 60, une soixantaine de. Voilà. En gros, non, il n'y a pas du tout le monde. La DIY, il y a quand même beaucoup, beaucoup de producteurs. Il y a un petit hiatus derrière ce mot producteur, c'est que c'est producteur, vendeur en direct, entre guillemets. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens, et notamment dans l'élevage, qui vend direct en coop, quoi, et qui ne fait pas forcément de la vente directe. Donc non, il manque plein de monde, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à amener quelques producteurs, quelques paysans, tu vois, à peut-être augmenter un peu leur vente directe et à se questionner là-dessus. Ça, c'est sûr. Parce qu'on voit bien que les bah, c'est idiot, hein, mais les tarifs de vente en direct, ça n'a rien à voir avec les tarifs de grossistes. Faut l'avoir en tête, quoi. C'est pas pareil, ça prend plus de temps, les clients qui râlent. Et on s'est tous rendu compte que dans nos nouveaux clients, il y avait des gens qui râlaient, quoi, parce que ils trouvent ça trop cher, ou c'est pas leurs attentes et tout. Et c'est normal, parce qu'ils découvrent des produits. Mais ça, on le reçoit pas tous de la même manière. Il y en a pour qui ça passe, et puis il y en a pour qui c'est blessant, parce qu'ils se sont fait chier à produire un produit, et quand le mec leur dit c'est trop cher, non, faut que je vive. Et à ce que j'en sache, il y a personne dans DIY qui produit de l'aliment qui vole personne. Ça n'existe pas. On n'en est pas là, quoi. Le jour où on en sera là, le monde aura bien changé, quoi. Donc non, moi, je me dis qu'il y a encore une énorme... un gros boulot à faire, et c'est ça, moi, qui m'intéresse pour la suite. C'est de se poser les questions que se posent Olivier et Nathalie, quoi. La résilience, comment on nourrit ce territoire. Aujourd'hui, si on devait se nourrir dans le territoire, on mangerait que des côtelettes d'agneau et on boirait tous de la clairette toute la journée, quoi. S'il fallait couler toute la marchandise qui était produite ici. Donc c'est bien que ça va nous questionner sur qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il faut qu'on monte en valeur ajoutée, si oui et comment. On voit bien qu'il y a un problème sur les fruits et légumes dans ce territoire, quoi. Il n'y a pas du tout de quoi assez satisfaire la population, mais on a beaucoup de viande. Enfin, voilà, il y a plein de... Je trouve que ça ouvre plein de questions, et c'est sûr que la question de la vente directe et de l'indirect, ou alors avec... Parce qu'il y a circuit direct et circuit court. S'il y a juste un intermédiaire, un magasin, ça reste en général quand même assez positif pour le producteur. Ça ouvre plein de perspectives, quoi.
Moi, je trouve que tout ce qui est évoqué là, en tout cas, ça pointe la nécessité aujourd'hui, et sans attendre en fait des directives nationales, mais ça pointe la nécessité de mettre autour de la table, là c'est vraiment mon leitmotiv moi, tous les acteurs de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et dans tous les acteurs, c'est les producteurs, les consommateurs, mais c'est aussi Intermarché, la Carline, Super U, tous ceux qui sont liés à la bouffe en fait, quoi. Parce que moi, je vais sortir aussi un peu du débat bio, pas bio. Bon, je vais peut-être faire hurler certains copains producteurs, mais à un moment donné, je suis désolée, en temps de crise, Inter, on en a besoin, quoi. Voilà, on ne peut pas se passer de structures comme ça, même si aujourd'hui, pour pas mal de producteurs locaux, la vente directe est importante et Intermarché peut poser problème. Quand il s'agit de nourrir la population d'Iwas, Inter, on en a besoin. Alors, dans l'idée... Moi, je soutiens vraiment la nécessité de mener des actions pour que ce territoire tende le plus à l'autosuffisance. Et en plus, donc il y a des éléments aujourd'hui que j'ai en main qui me permettent de dire qu'on en est capable. C'est à portée de main, tout ça, quoi. C'est, voilà. Et il y a des études qui ont été faites. Les chiffres sont là. On a les outils, on a les compétences, on a les connaissances pour tendre vers un territoire résilient en question sur la question de l'alimentation. Donc il n'y a plus qu'à, quoi. Mais il faut mettre tous les partenaires autour de la table. mais tous, et poser les bonnes questions. Faire déjà, dans un premier temps, une photographie de ce qu'on vient de vivre, qui est pour moi de l'ordre de l'alerte, en fait. Hein. On n'a pas, sur la question de la sécurité alimentaire, on n'a pas vécu une grosse crise. Les camions ont pu continuer à monter, les magasins étaient ouverts, on a eu accès à une alimentation en quantité suffisante. La qualité, voilà, après, c'est la question se pose, quoi. Mais chacun a pu aller faire ses courses. Donc, ce n'était pas une grosse crise. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus voiler la face. On est menacé par des grosses crises. On court le risque aujourd'hui, effectivement, que les camions ne montent plus un jour, quoi. Pour plein de raisons, pas que la question sanitaire. Donc, face à ça, on doit prendre la mesure de tout ça. Et les responsables, ceux qui ont en charge ce territoire, doivent se poser la question, OK, si demain les camions ne montent plus, comment on fait pour nourrir la population ? Et en plus, ce qui me paraît important de dire, c'est que, voilà, on a les moyens, on a les connaissances, les compétences, on a les outils pour mesurer tout ça. Y a des territoires qui ont déjà fait ce chemin-là. On n'invente rien, il n'y a plus qu'à, quoi. Et il n'y a plus qu'à, et il faut le faire maintenant, là. On n'a pas besoin d'attendre que M. Macron, par exemple, nous dise « Allez-y, bosser sur ces questions, quoi. » C'est maintenant, voilà.
Olivier, ouais. On questionne encore cette dimension politique et puis l'implication de l'espace social. Alors, ne te répète pas avec l'interview de la semaine dernière, finalement, si tu y arrives.
plusieurs choses. Déjà, je vais enfoncer le clou sur une chose qui est importante et qui a été dite précédemment, c'est qu'il y a un terreau de base dans ce territoire, et ça, c'est indéniable sur la réactivité qu'il y a eu quant à la prise de conscience des problèmes qui pouvaient se poser, quant à la mise en œuvre et à l'activation des réseaux qui sont déjà anciens, et sur quelque chose qui, moi, me tient à cœur, mais c'est parce que j'ai un profil très économie sociale et solidaire, et donc très économie locale, notamment, par mes différents postes précédents, et puis aussi tout ce que j'ai pu faire en termes d'engagement associatif et militant, c'est reprendre le titre de ce très bon documentaire qui était « Face au désordre global, il n'y a que les solutions locales, justement, qui peuvent répondre à ces désordres globaux ». Là, on est quand même sur un désordre inédit en termes globaux, plus de la moitié de la population de la planète qui est confinée, et des solutions qui ne peuvent pas arriver par le haut, en tout cas qui ne sont pas assez réactive et résiliente pour pouvoir répondre à l'urgence qu'il pouvait y avoir. Et donc nous, sur ce territoire, avec l'ensemble des choses qui sont en place, avec déjà l'énorme solidarité qu'il y a, ces solutions locales, elles se sont mises en place très rapidement, parce qu'en fait, on sait vers qui se tourner quand on est en crise, on sait qui peut répondre rapidement. Et nous, clairement, à l'espace social et en lien avec le bureau de l'association, on s'est clairement dit, bah, de toute façon, de la même manière que Nat disait, bah, voilà, moi j'ai une baisse d'activité, mais je continue à être payé. Nous, on a eu l'information de la part de nos financeurs qu'on n'aurait pas de soucis par rapport au financement qu'on reçoit, même si on avait une baisse d'activité. Donc, on avait aussi une baisse d'activité en temps de travail, donc du temps qui était mobilisable, du matériel, de la logistique qui était mobilisable. Et donc, on a dit banco, comme on dit banco, dès qu'il faut répondre à un groupement d'habitants qui a un projet et qu'on va accompagner, quoi. C'est la quintessence de l'espace social, c'est de ne pas faire à la place des gens, mais d'accompagner au mieux toutes les initiatives que peuvent avoir les habitants et qui vont dans le bon sens. Et cette question de la résilience, cette question qui tourne autour du développement durable, même si le terme est un peu galvaudé, voire dépassé, au vu des crises qu'on a à gérer, on a une, Une mission principale, c'est effectivement de permettre aux personnes d'être les plus en autonomie possible dans le développement de leurs activités et de les aider dans ce développement-là. Et là, sur ce projet-là, ça nous semblait tellement aller dans le bon sens. Des habitants qui se posent la question de comment ils vont manger, des producteurs qui ont la conscience du fait qu'il y a plein de producteurs sur le territoire qui ont besoin d'écouler leurs marchandises. Mais comment faire le lien entre tout ça? Eh ben, aidons à ce que ce lien puisse être le plus facile possible, le plus rapide possible, et mettons tous les moyens qu'on a à notre disposition pour pouvoir le faire.
Comment expliques-tu le paradoxe dans lequel on se trouve? Ça, c'est votre métier, devoir aider et permettre aux gens d'être autonomes, et on est en plein confinement, ce qui est totalement l'inverse proposé par le gouvernement.
Je ne sais pas si c'est inverse, on est sur deux plans. Le confinement tel qu'il a été décidé, d'une manière très descendante, c'est un confinement qui a été décidé pour des raisons sanitaires, pour éviter qu'il y ait un pic face à un système de santé qu'on savait fragile et qui ne pourrait pas encaisser le choc d'un trop grand développement de la maladie en cours. Ce n'est pas antinomique avec le fait d'être confiné et de faire attention à la manière dont on va interagir les uns avec les autres, et pas en opposition avec le fait qu'on trouve des solutions en faisant attention, justement, en trouvant les moyens pour être en accord avec ce qu'a mené la situation qui a mené au confinement, mais tout en ayant conscience qu'il faut qu'on continue à vivre sur les territoires, bien qu'on vive le plus confiné possible, mais qu'on n'est pas autonome. Chacun dans nos maisons, on a un certain nombre de réserves, une petite réserve alimentaire mais qui peut pas tenir sur 3 mois de confinement. Et en fait, ça interroge sur la manière dont on fonctionne de manière quotidienne. Tous, même quand on est très très alertés sur la question des circuits courts, de tout ce que sont qui est cette économie de flux qui tient qu'à un fil. Je rappelle qu'on a eu une première alerte quand même, il y a 9 ans à peu près, c'était en 2011, il y a eu l'explosion d'un volcan en Islande, et au bout d'une semaine, il y avait des ruptures d'approvisionnement en Bretagne, dans des épiceries, parce qu'en fait, 3 jours de non-aviation avaient fait qu'il y avait eu des impacts ultra-locaux qui avaient été ressentis. Moi, c'est à partir de ce moment-là que ça m'a vraiment interpellé. L'Edjafalajökull, donc, qui explose et qui a des incidences partout. Ouais, je me la pète grave. Alors, ouais, je le sais d'autant plus qu'à cette époque-là, on avait lancé un site justement de développement local qui avait ce nom-là, Edjafalajökull. Impossible à écrire. Impossible à écrire. Mais en tout cas, qui était bien en lien avec cette idée-là que si le flux se tarit, on peut avoir des gros problèmes sur les territoires. Et aujourd'hui, vu ce qu'on a commencé à initier, l'annuaire des producteurs, la question de la résilience alimentaire, est-ce que notre territoire pourrait être résilient, pourrait nourrir ses presque 12 000 habitants? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit le cas? Je trouve que cette crise, elle est plutôt salutaire dans la prise de conscience. Il y a des personnes qui étaient très conscients des problématiques qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, on sait que cette crise, elle n'a pas été si grave que ça en termes de rupture de flux, sauf que la prochaine, et parce qu'il y aura de prochaines crises, ça c'est obligatoire, il faut qu'à l'aune de ce qu'on a appris là, on puisse y réfléchir. Et quand on regarde les productions du Diois, effectivement, si on ne veut pas se nourrir que de côtelettes d'agneau et de clairettes, ou faire une cure de raisin tous en septembre avec la production locale, il faut réfléchir à comment on peut faire aussi pour transformer les aliments, pour pouvoir avoir des réserves pendant l'hiver quand le territoire produit peu ou pas du tout. Et donc toutes ces questions, elles vont nous interroger sur le fait de comment on nourrit nos enfants, comment on approvisionne les cantines. Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir à mettre en œuvre une conserverie de territoire pour pouvoir transformer tous les produits agricoles qu'on produit à la belle saison pour qu'ils puissent être pour qu'ils puissent être consommés tout au long de l'année. Et de ça, c'est aussi vis-à-vis et par rapport à tous les systèmes d'entraide et tous les réseaux d'entraide qui se sont mis en place. Le Covid entraide d'IWA local, il a été super, super important. Il a été important pour la distribution des colis alimentaires, il a été important pour la fabrication des masques. Mais au niveau régional, au niveau national, on a aussi appris plein de choses. Et puis, ça, on se connecte aussi avec d'autres réalités. Typiquement, super exemple de résilience de territoire, quelque chose qui se passe en Ardèche depuis maintenant bientôt 30 ans, autour de Saint-Pierreville. À Saint-Pierreville, il y a 30 ans, il y a un groupe de jeunes qui ont repris un ancien bâtiment et qui ont décidé qu'ils allaient revaloriser un produit agricole qui était plus valorisé, qui était la laine de mouton. Ils ont créé une coopérative qui s'appelle Ardelaine. Ils ont, à ce moment-là, permis à des éleveurs de pouvoir revaloriser une matière qu'ils avaient. Puis petit à petit, ils sont devenus acteurs du territoire. Ils ont créé un restaurant et une conserverie qui a permis, au moment où le restaurateur du coin qui faisait la cantine des enfants, qui a permis à continuer à pouvoir nourrir les enfants qui étaient encore à l'école à Saint-Pierreville et qui, sans cette usine qui s'était recréée, sans la conserverie, sans le restaurant, sans tout ce qu'il y avait autour, n'aurait pas permis à ce territoire de continuer à vivre. Et là, on en est là aujourd'hui, je pense, à réfléchir pour demain ce qu'il faut qu'on mette en œuvre sur la production de produits maraîchers, de fruits, de légumes pour le territoire et comment on fait pour essayer de minimiser au plus les entrées de flux et comment on fait pour s'enrichir nous-mêmes. Et Damien l'a dit tout à l'heure, on est sur un territoire où l'euro dépensé à l'intérieur du territoire est important parce que 1 euro dépensé sur le territoire qui revient dans l'économie locale, il est beaucoup plus important qu'un euro qu'on dépense sur Amazon ou ailleurs parce qu'à ce moment-là, la richesse qu'on produit sur le territoire, elle s'échappe de notre territoire et ça, c'est juste plus possible, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que tout ce qu'on fait sur le territoire, toute la richesse qu'on produit, elle puisse nourrir au mieux notre territoire et qu'on soit de plus en plus autonome, quoi.
Est-ce que c'est entendu, ça ? Est-ce qu'on peut décemment penser partir vers une gestion localisée, locale, face à notre système qui ne l'est pas ?
Alors oui, moi j'en suis convaincue. J'en suis convaincue pourquoi ? Je ne m'appuie pas sur mes fantasmes, je ne m'appuie pas sur mes idées ou mes rêves ou mon idéologie, je m'appuie sur les faits. Et dans les faits, il existe des territoires qui ont déjà mis en place des actions pour... non pas tendre, mais réussir à une autonomie alimentaire. Donc là, j'en arrive à citer en fait la commune de Mouans-Sartou dans le 06. Donc Mouans-Sartou dans le 06, 9700 habitants. On n'est pas loin de notre territoire. Hein. Je ne parle pas de Di, je parle du Diwa là. Combien d'habitants ? 11 000 à peu près ?
Presque 12 000.
Presque 12 000. On n'est quand même pas très loin des 9700 de Mouans-Sartou. OK. Mouans-Sartou. Ils n'ont pas une municipalité de gauche. Hein. On sort des idéologies et tout ça. Là. Donc cette municipalité a mis en place une régie communale qui, en gros, tu prends des terres agricoles, t'installes un paysan et le paysan va fournir des légumes qui vont servir à faire des repas. Mouans-Sartou, aujourd'hui, la régie fournit 1300 repas par jour. Voilà. Pour les écoles, c'est 1000 repas. Donc, je me suis renseignée, pas plus tard que ce matin, sur 10, juste 10, hein. Je te parle juste de 10. Collège, lycée, on fournit 500 repas le midi. Les écoles primaires, sur 10, c'est, on s'est dit tout à l'heure, quoi ?
Il y a
400 repas, max.
Donc il y a 400 élèves, donc il n'y a pas 400 élèves
mais
qui
privé et public, hein, les deux.
On peut y manger aussi les extérieurs à la cantine, enfin quand il n'y a pas le Covid.
Oui, ouais. Non mais on a fait le compte, quoi qu'il en soit, on est en dessous de 1000 repas à jour. Oui. Mouans-Sartou arrive à fournir 1000 repas pour les écoles. 100 repas pour le personnel municipal et 200 repas dans les crèches. Ils arrivent à fournir tout ça sur... ils ont 6 hectares de terre, dont 4 cultivés. Donc, c'est pas inaccessible. C'est complètement accessible, ce genre de choses, quoi. Le coût alimentaire par repas, puisque souvent on nous présente cet argument, ouais, ça a coûté cher, machin. Et ils sont en bio, hein, d'ailleurs. Bon, voilà, pour remettre un petit peu le truc à sa place. Le coût alimentaire par repas, c'est 2 euros. C'est pas non plus inaccessible. Et tout ça, en plus, ça a créé 3 emplois. Donc, là, je parle d'une chose, je suis pas en train de fantasmer. Ça existe, ça a été mis en place par des gens qui sont dans le 06, à combien d'heures de route, quand même, c'est pas très loin, quoi. Donc il suffit juste qu'à un moment donné, on crée une équipe de citoyens, de producteurs, de responsables du territoire, comme équipe municipale, on se fait une petite virée, là, super sympathique, sur 2-3 jours, on va voir ces gens, on leur demande comment ils ont mis ça en place, et puis on fait pareil.
Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le confinement pour que cette idée émerge? Et pourquoi ça se fait pas? Qu'est-ce qui bloque, selon toi?
Est-ce que aujourd'hui les responsables en place ont eu vent de ce genre d'initiative? Je ne sais pas. Donc, il est peut-être intéressant justement que je vienne m'exprimer à ce micro pour qu'ils entendent ce message, tu vois. Est-ce que il a fallu cette crise-là pour que on mette cette petite micro-action, hein. On n'a pas fait un truc de dingue non plus, hein. Mais qu'on se rassemble alors qu'on se connaît aussi, on se côtoie au quotidien, mais bah, là, cette crise a fait qu'on a fait ça ensemble. Est-ce qu'il faut des crises pour que toutes ces choses-là émergent et deviennent une urgence? Peut-être, oui, peut-être. À la limite, peu importe, c'est l'occasion de poser toutes ces choses-là. Si ça n'a pas été fait avant, tant pis, c'est pas grave. Par contre, maintenant qu'on a vécu ça, qu'on a analysé ça et qu'on a pointé ça, si demain, et là pour moi c'est très important, on ne se met pas en action, on devient coupable en fait, clairement. Clairement, là il faut prendre la mesure des choses et des responsabilités de chacun. La prochaine crise, elle risque d'être bien plus grave et avoir des conséquences, des répercussions sur la population bien plus graves. Donc maintenant qu'on a posé ces choses-là, qu'on a fait ce constat-là, et que les choses ne sont pas inaccessibles, on devient coupable si on ne les met pas en œuvre. Ça, pour moi, c'est un élément clé, essentiel à prendre en compte maintenant, quoi.
Tu pointais du doigt tout à l'heure le fait de « mais est-ce qu'on vous laisserait faire ?» En fait, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau local, on a pas mal de possibilités d'intervenir. Au niveau des municipalités, des départements, des régions, pour pouvoir avoir des solutions qui soient soutenues et qui soient soutenues plutôt au niveau local. Moi, je ne crois pas à l'Oasis d'Iwa qui serait mis en œuvre et qui serait autonome, résilient, etc. Au milieu d'un océan de merde, de territoire qui serait pas du tout résilient. Et je pense que cette crise-là, elle va amener quelque chose de l'ordre assez historique et qui va à l'encontre de ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. C'est un exode urbain qui va avoir lieu et un retour vers le monde rural qui, je pense, est déjà enclenché aujourd'hui. Parce que quand on voit que 17% de la population de la région parisienne est allée se confiner à l'extérieur de Paris, c'est pas anodin. C'est pas anodin de
sur
se dire...
13 millions, que,
voilà, 17%. Voilà, ouais, ouais. Ceux qui sont partis, bon, ils en avaient les moyens parce qu'ils avaient des résidences ailleurs, ils faisaient partie d'une certaine classe sociale qui avait les moyens de se déplacer. Ce qui ne veut pas dire que ça aurait été que 17% si tout le monde avait eu les moyens. Je pense que ça aurait été plutôt 50%. Mais en tout cas... Eux qui avaient les moyens de faire autrement, ils se sont barrés des villes en se disant que ça sera peut-être plus viable en milieu rural et en milieu moins dense. Ça interroge vraiment sur cette accélération du phénomène urbain et de la concentration urbaine qui, lui, ne tient que parce qu'on est dans une économie de flux et qu'aujourd'hui, si le flux se tarit, la situation en ville sera extrêmement problématique. Donc, le fait qu'on puisse le faire à notre niveau, dans une zone rurale où il y a déjà des solidarités qui sont en place, etc., c'est pas pour être meilleur que les autres, c'est pour dire c'est possible et pour peut-être servir d'exemple, accompagner d'autres territoires, dire à tous ces gens en périurbain et en urbain, bah, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ce qu'on a mis en œuvre avec plus de facilité sur nos territoires parce que ça l'était. Mais demain, pour répondre aux crises globales, il faudra que par unité de quartier, de grands, de parties de communautés urbaines, il faudra qu'on ait ces solutions là aussi pour qu'on soit le plus autonome possible. Il y a 200 ans, Paris et sa ceinture verte autour étaient complètement autonomes. Voilà, Paris était alimenté par la grande ceinture verte qu'il y avait autour avec des maraîchers qui faisaient du légume, du fruit, de l'élevage. Et c'est plus le cas aujourd'hui avec l'urbanisation qu'il y a eu. Demain, la ville aura inventé d'autres moyens que ceux qu'on a, nous, avec les grands espaces qu'on a. Mais il n'empêche que cette crise-là, elle montre qu'il faut vraiment réduire au maximum notre dépendance au flux, parce que là, c'est un virus tout petit qui a foutu le bazar sur l'ensemble de la planète. Demain, ça sera les dérèglements climatiques et la baisse des possibilités d'avoir recours à une énergie pratiquement gratuite, on va dire, ou en tout cas tellement facile à utiliser qu'est le pétrole, qu'elle nous a facilité la vie et qu'elle ne va pas pouvoir nous le faciliter encore pendant 200 ans. Et donc voilà quoi, essayons de se servir de ces éléments-là pour inventer demain. Et on peut se rappeler, pour finir là-dessus, moi, il y a un passage d'un film de Colin Serrault que je trouve assez génial, même si...
Deuxième film de Colin Serrault que tu cites.
Voilà. Oui, c'est possible. Voilà, qui est La Belle Verte, effectivement. Et dans La Belle Verte, il y a un moment, il y a ces deux émissaires d'une autre planète qui viennent visiter notre planète et qui disent « Ah, mais nous, on vivait pareil que vous il y a 300 ans ». Mais en fait, eh ben, y a un moment, les consommateurs, les habitants, ils ont décidé le boycott. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté de participer au grand mouvement général. Ils ont arrêté de consommer comme ils consommaient avant. Et donc, on a boycotté tout ce qui était inutile. On a arrêté de le consommer. Et personne ne pouvait rien faire là-dessus. Et on a inventé une nouvelle manière de vivre. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens de consommer. On ne peut pas empêcher les gens de ne pas consommer ou de consommer autrement. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est de se dire, bah voilà, c'est possible. On a un pays qui a largement les terres pour pouvoir être autonome. Réfléchissons à ce que sera demain si on doit réduire nos flux qui partent de partout sur la planète et qui arrivent de partout de la planète, quoi.
Je réagis, Baptiste, je sais pas si c'est des questions, mais je réagis parce qu'il y a deux points importants dans ce que tu viens de dire, Olivier. Il y a un point essentiel, c'est que dans le Diois, on a un peu l'impression parfois d'être préservé. C'est vrai qu'on est un peu un territoire d'exception, on a beaucoup de super producteurs, on a une agriculture qui semble aller bien. Ok, en fait, ça reste assez fragile, ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une politique forte dans le sens de la protection des terres agricoles contre la bétonisation notamment, notre système il reste assez fragile. C'est-à-dire que on est loin d'être un territoire résilient parce que pour l'instant on ne produit pas suffisamment l'alimentation au niveau local. Il y a une étude qui a été présentée par Pierre Thomé cet hiver aux rencontres de l'écologie et qui est passionnante. Il a travaillé sur la question de l'autosuffisance en Biovallée. Et cette étude démontre que la surface agricole utilisée sur la commune de Die n'est pas autosuffisante. Mais si on associe l'intercommunalité du Diois et celle du Val-de-Drôme, on est largement bon. En termes de surface agricole utilisée. Mais si ces surfaces agricoles utilisées à un moment donné sont menacées, parce qu'elles sont réorientées, parce que le paysan du coin ne trouve pas un repreneur, parce que du coup, ces surfaces-là sont utilisées à autre chose, parce qu'on va, allez, je vais mettre le pied dans le plat, utiliser certaines surfaces agricoles sur la commune de Die pour construire un hôpital qu'on a déjà en centre-ville. Voilà, moi, ça me pose vraiment question, en fait, ce genre de choses. Donc, il faut aussi que tout ça s'accompagne d'une politique claire de préservation des terres, des surfaces agricoles, quoi. c'est pas gagné, quoi. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Ça, c'est sur la question de l'agriculture. Tu parles après, Olivier, de changement de comportement des consommateurs. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de parler, là, entre nous, on arrive, nous, à se payer le petit panier de légumes bio? On arrive à se payer de temps en temps, pour ma part en tout cas, une petite virée à la Carline. Mais j'ai plein de gens autour de moi qui, pour des raisons multiples et variées, ne vont pas ni à la Carline, ni sur le marché. Ils vont à Inter ou ils vont chez Lidl. Ils n'ont pas les moyens de se payer une alimentation que nous, on décrit comme saine, voilà. Et c'est pas parce que ils ont pas envie de bouffer bio ou voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, c'est un autre aspect. Ça dépasse bien évidemment ce qu'on a mis en place là, mais il faut la poser cette question. Pourquoi aujourd'hui les gens, malgré leur l'éveil des consciences, malgré le fait que oui, ils aimeraient bien bouffer bio, local, ils aimeraient bien se payer tous ces produits des bons producteurs du coin. Pourquoi eux, ils n'ont pas accès à ça? Financièrement, ils s'en sortent pas. Et ça, c'est aussi un chantier, en fait, à mener. J'ai pas la réponse, hein. J'ai absolument pas la réponse. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, quand on parle d'accès à une alimentation en quantité et en qualité suffisante pour tout le monde, c'est ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Combien peuvent se payer les produits du marché? Alors que je sais très bien, et je ne questionne pas, absolument pas, le prix des aliments sur le marché, ça c'est hors de question de le questionner. Comme disait Damien tout à l'heure, il n'y a pas de producteur qui vole le consommateur, hein. Les prix du marché, voilà, c'est le prix juste pour qu'un producteur puisse vivre. Mais pourquoi certains consommateurs n'ont pas accès à ça?
Alors il y a des chiffres, hein. À une certaine période, c'était plus de 50% du budget du ménage qui passait dans la bouffe. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Damien, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce qu'il faudrait augmenter la production de l'ensemble des productions disponibles, par exemple aussi des champignons, pour pouvoir tenir cette régie, en faire baisser les coûts? Est-ce que c'est intéressant d'en faire baisser les coûts? Est-ce qu'on doit au contraire revaloriser la bouffe? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois pour la suite?
Est-ce qu'on peut imaginer aussi, pour vous producteurs, le fait, et là, pour le coup, ça se jouera aussi à un niveau plus haut que notre territoire, est-ce qu'on peut imaginer une part de travail qui pourrait être mobilisée de la part des habitants auprès des producteurs pour pouvoir permettre justement une meilleure production, mais aussi une baisse des coûts, en imaginant un système qui permettrait à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens justement d'avoir accès à tous ces produits-là, d'aller donner un peu de leur force de travail pour pouvoir avoir accès à ces produits-là.
Pour les jardins nourriciers, c'est ça?
Par exemple. Ce qui imagine les jardins nourriciers.
Ouais, pour les jardins nourriciers, bon, là c'est appliqué au maraîchage. Tout de suite, si on pense à l'élevage, ça paraît plus compliqué. L'élevage, c'est déjà un peu plus technique, il y a des questions sanitaires qui sont plus exigeantes que sur des légumes. Pour cette question-là, c'est sûr qu'on demande à l'agriculture de régler beaucoup de problèmes du monde. Et en général, en ce moment, en tout cas, j'ai l'impression qu'on met une grosse pression sur les paysans en posant des questions de société auxquelles c'est pas à eux de répondre, en fait.
C'est bon, à la société d'en s'assurer à fond.
Voilà, et là, je mets vraiment tout le monde dans le même sac, y compris ceux qui produisent en bio, machin. Tout le monde se prend un peu de la pression. Et voilà, c'est pas à nous de régler le problème du fait que les gens ne sont pas assez payés, par exemple. Ça, c'est pas de notre faute. Voilà, si nous on prend notre...
D'ailleurs, vous n'êtes pas assez payé non plus.
Nous ne sommes pas assez payés et on aimerait que tout le monde puisse acheter notre production. S'ils ne peuvent pas l'acheter, c'est pas parce que nous on est trop cher. C'est parce que... Après, on pourrait gagner, on pourrait faire baisser un peu les coûts, c'est sûr, si on avait peut-être cette main-d'œuvre, je ne sais pas comment imaginer, mais voilà, les systèmes des jardins nourriciers. Mais voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous on le voit, il y a plein de gens qui veulent venir nous aider et tout, mais le temps que je vais passer moi à leur dire comment faire, j'ai déjà perdu de l'argent. Donc c'est pas évident, mais ça pourrait, c'est des questions de culture qui a peut-être à changer. C'est compliqué parce que voilà, il y a des questions légales, il y a des questions de culture, il y a des questions de génération, il y a des questions de... Voilà, moi, je le vois à Saint-Julien-en-Quin, je suis entouré de paysans, on est un tout petit village, et il y a déjà plein de manières de voir leur métier. Ils ont tous une manière différente de voir leur métier, quoi. Alors qu'il y en a, ils sont là depuis longtemps, ils ont à peu près les mêmes, je sais pas, un peu les mêmes modèles, et déjà eux, ils travaillent différemment, donc c'est très compliqué. De la même manière, on demande pas à tous les cordonniers de s'associer et de créer une usine. Voilà, parce qu'en fait, il y a des artisans. Voilà. Donc, c'est un peu, moi je trouve que c'est des questions vraiment très 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 complexes. Cette question de la résilience, en tout cas, sur les légumes, ça me paraît... on est capable, on dit ouais, de produire de la patate, on pourrait assouvir le Diwa et le Biovallée, patates, carottes, enfin des gros besoins. Après, c'est vrai que tout ce qui va être un peu transformé, tout ce qui est un peu différent, bah, c'est plus compliqué, mais c'est aussi pour ça que c'est plus cher, et c'est aussi pour ça que normalement, si on payait le vrai coût, on devrait en manger encore moins. C'est-à-dire que là, dans le Diwa, par exemple, on a accès à une viande de très très bonne qualité à des prix très très faibles, mais beaucoup parce qu'il y a les aides de la PAC, énormes dans le Diwa. Si on enlève ces aides-là, notre gigot ou nos caissettes en direct producteur, on ne les paierait pas à ce prix-là, quoi. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc, et on est bien content qu'il y ait cette PAC. Et en même temps, cette PAC, c'est l'Union européenne avec l'avènement des populistes. Est-ce que la PAC, ce n'est pas bientôt fini? On n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il y a plein d'incertitudes quand on...
Après une nouvelle crise.
Cette question de... ouais, je trouve que cette question de la résilience alimentaire, c'est une pelote. Enfin, c'est un fil dans la pelote. Et quand on la tire, c'est la complexité du monde économique et politique dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est au cœur, c'est central, parce qu'on parle de la bouffe. Donc on parle de ce dont on a besoin pour se lever le matin, se coucher le soir, s'amuser, être heureux, machin. À chaque fois, il nous faut de l'énergie pour tout ça, et donc s'alimenter. Donc on est sur une question centrale. Moi, je me dis, je suis assez optimiste d'un certain côté, parce que je me dis que quand même, on est dans une économie très libérale. Il y a un cadre qui est donné par le politique et tout, mais quand même, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et le Diwa, on est un exemple. Il y a plein de modes de production, de commercialisation un peu différents. Donc, il faut qu'on utilise tous les interstices, tous les espaces disponibles pour innover. Les jardins nourriciers l'ont fait. Il y a plein de formes d'innovation à avoir. Mais c'est sûr que cette question de la régie, par exemple, qui rejoint la question des communs, voilà, qui peut travailler une certaine partie de la population ici, elle est intéressante. Mais là où je mettrais un mais, c'est sur la vitesse à laquelle on fait les choses et qui c'est qu'on emmène là-dedans. C'est-à-dire que, pour moi, transition, si transition il doit y avoir, si elle peut se passer, elle n'a de sens si on emmène tout le monde. Et du coup, forcément, c'est plus lent. Forcément, c'est beaucoup de communication, c'est énormément de pédagogie et tout. Parce que si on est quelques-uns, aller très très loin, dans des modèles très innovants, mais qu'on est deux, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça valait pas juste le coup? J'en sais rien, moi, de... permettre à peut-être Super U, par exemple, de s'approvisionner en produits locaux, voilà, déjà, pour commencer. Après, la Carline, j'en sais rien, il y a plein de questions comme ça, où je me dis, il faut qu'on amène toute la population, et aujourd'hui, on voit bien, notamment, je rebondis sur ce que tu disais, Olivier, sur l'exode urbain, on voit bien qu'on est plein de cultures différentes à se côtoyer ici, et pourtant, on est dans un territoire qui n'est pas très inégalitaire, donc on a de la chance, on n'est pas non plus sur... On a quand même des échelles de salaire dans Diwa qui sont globalement plutôt vers le bas, et on n'est pas des territoires urbains très violents pour ça. Donc on pourrait se dire que ça pourrait marcher, mais quand bien même, on voit qu'on a tous des cultures très différentes et qu'on ne va pas du tout tous à la même vitesse là-dessus, et qu'on n'a pas tous envie d'aller au même endroit. Mais donc voilà, il faut quand même le faire un peu ensemble. Moi, c'est vraiment cette question qui m'intéresse, et par exemple, dans la vallée de Quin, voilà, de comment on ne recrée pas des fractures, comment on... On veut pas d'un oasis d'Ivoire dans un océan de merde, mais moi je veux pas non plus des mini-archipels, des mini-communautés dans notre tout petit territoire qui en fait se parlent plus parce qu'en fait elles communiquent plus, elles consomment plus pareil, culturellement elles vont pas au même endroit, elles font tout différent et donc en fait il y a plus de lien et on voit bien que ce qui est essentiel dans cette crise, l'entraide et tout ne fonctionne que si en fait on se connaît déjà avant, si on connaît c'est pas pendant la crise qu'on fait connaissance en fait, pendant la crise on active des réseaux qu'on avait déjà, on active des connaissances, c'est parce qu'on connaît le paysan du coin qu'au moment de la crise, on peut aller le solliciter pour l'aide. Si on le fait qu'à ce moment-là et qu'on ne l'a jamais vu avant, ça ne marche pas du tout pareil. Ça n'a pas du tout les mêmes effets, ça n'a pas du tout aussi vite. Et moi, c'est vraiment ça que j'apprends et c'est ce qu'on expérimente à Saint-Julien-en-Quin. Ces petits liens-là qui font que, on sent que quand il y a un problème, il y a une entrée tout de suite. Mais parce qu'en temps normal, entre guillemets, ces liens, on les entretient à fond.
Il y avait déjà un truc qui existait quoi, pour y aller.
Ouais. Ouais, voilà,
le voisinage a pris le dessus.
Oui, et puis si c'est pour avoir une avant-garde éclairée qui arrive à vivre, elle ne vivra pas longtemps. Ça n'a aucun sens. Effectivement, il faut penser à ce que ce soit le plus possible partagé par la population, même au-delà, si nous, on a un territoire qui est en capacité de produire pour d'autres communautés qui sont à l'extérieur, c'est ça aussi. L'oasis ne marchera jamais. On a beau être les plus beaux, les plus forts, etc. Si c'est la merde partout autour, ça ne marchera pas. Parce qu'on sera submergé par des gens qui n'auront pas trouvé de solution sur le territoire sur lequel ils vivent et qui, d'une manière naturelle et normale et complètement compréhensible, viendront vers des endroits où ils ont l'impression qu'ils pourront vivre. Et là, pour le coup, on fait le lien avec des désordres autres que ceux qui sont liés au Covid, qui sont toute la crise qu'il y a aujourd'hui des réfugiés, où on voit bien que les désordres globaux, dont on est en partie responsable, parce qu'il y a une grosse partie des réfugiés qu'on a aujourd'hui qui arrivent sur le sol européen, qui sont des victimes des dérèglements climatiques que eux n'ont pas... ont contribué d'une manière très faible à voir apparaître. C'est notre mode de vie occidental qui a fait ça et qui a déréglé l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, ce flux de réfugiés, on se doit effectivement de la même manière de pouvoir les accueillir en humanité. Et demain, ce qu'on fait ici au niveau local, il faut que ça puisse... qu'on puisse pouvoir le mettre en avant, montrer que c'est possible et que chacun à son niveau puisse prendre part à mettre en place ces choses-là sur son territoire, parce qu'on ne pourra pas survivre si les autres ne survivent pas, quoi.
Nathalie, tu conclus ?
Bon, c'est très intéressant toutes ces questions. On développe beaucoup d'idées qui sont un peu globales. Et moi, j'ai régulièrement besoin de revenir en fait à une échelle très locale, parce que je trouve qu'on souffre tous d'une chose assez terrible, c'est que face à tous ces enjeux assez énormes, assez globaux, on est un peu écrasé en fait par toutes ces problématiques. Et finalement, on en vient à préférer aller faire une rando dans le Vercors ou un bon apéro avec des copains pour oublier tout ça. Parce qu'on n'en peut plus, en fait, de tous ces problèmes. Or, il y a un endroit, en fait, où on peut encore agir. Et c'est pour ça que je reviens à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, tout de suite, maintenant, sur le territoire. Je vais vous raconter une anecdote. Donc depuis 3 semaines, je suis très en lien avec les producteurs. Et à un moment donné, j'allais voir un copain qui fait du fromage de brebis. Et je lui ai dit, mais alors, il y a quand même beaucoup de producteurs là sur le territoire en fait qui ont été confrontés à cette difficulté de devoir produire 2 fois plus. Parce que la demande était énorme. C'est quand même ça le constat aussi de ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous devez produire 2 fois plus ? Qu'est-ce qui se joue là en fait ? Moi, je ne me suis pas mise à bouffer 2 fois plus là dans cette crise. Il m'a dit, mais c'est très simple, en fait. Tous ces repas pris en cantine au quotidien se sont retrouvés dans le panier de la ménagère. Et la ménagère, elle s'est retrouvée où ? Pour plein de raisons. Les gens aussi avaient envie de bouffer bien, notamment sur les marchés. Et donc, nous, on a vidé nos caves. On n'a plus de tomes de brebis dans les caves. On n'a plus de lait de réserve. On n'a plus rien parce qu'il a fallu fournir. Ça me dit 2 choses, ça. Là, il y a 2 enjeux énormes. Et un qui est chouette, parce que ça va répondre un peu à ce qu'on a mis en avant. C'est-à-dire que si on s'occupe des repas en cantine, aujourd'hui, et encore une fois, je le redis, c'est accessible. En 6 mois, on te monte le truc, là. Mais vraiment, on s'occupe des repas des cantines, et déjà, on fournit cette demande-là. Au quotidien, on peut le fournir, et en période de crise, les systèmes seront en place qui fourniront 1000 repas sur le territoire. Ça, c'est soutenable, ça, c'est durable, ça marche. Et ça permet de toucher, non pas seulement, on va y aller avec des gros mots, le bobo néo-rural qui a les moyens de se payer le petit panier sur le marché, mais ça touchera aussi les habitants, les copains qui habitent dans les HLM et qui ont besoin de ce repas à la cantine pour leurs gosses, quoi. Et ils auront accès, eux aussi, à une nourriture de qualité parce que ça aura été géré par les autorités du territoire. Ça, c'est faisable tout de suite.
D'où la question des conserveries, même d'une éplucherie, comme on peut dire. Tu vois, tout ce qu'il faut pour éplucher des légumes pour la restauration collective.
Il y aura enfin un peu d'industrie dans le DIY, il y en a plein qui vont le faire.
D'ailleurs, les régies...
Et des fabricants de biscottes aussi, ça c'est sûr.
D'ailleurs, les régies communales sont souvent complétées par des systèmes de conserverie, ça c'est clair.
La conserverie, éplucherie, c'est...
Il y a un autre enjeu, en fait, qui est soulevé derrière tout ça, et c'est une autre anecdote. quand je discutais avec les boulangers notamment, qui eux aussi ont dû fournir deux fois plus de production. J'ai discuté aussi vraiment, mais je pense qu'il ne s'en souvient pas, avec le directeur de la Carline au tout début du confinement, qui me disait « Alors c'est dingue, moi je me fais piller en farine et j'ai de nouveaux consommateurs, des clients que je ne connaissais pas, qui viennent acheter des kilos et des kilos de farine. » On est en train, consommateurs, de puiser dans les stocks de farine. Les boulangers produisent deux fois plus du pain. En fait, on est en train de piller nos stocks de farine, produites localement, hein, je parle, hein, j'entends. Et je me suis dit, bon, celui qui fabrique la farine localement, qu'est-ce qui se passe dans ses champs? Là, il est en train il a semé, d'accord, ok. On est en train de nous parler là d'une période de sécheresse qui s'annonce. Notre flotte dans le Diwa, il faut savoir que on nous demande de limiter notre consommation d'eau pour que les céréaliers de la vallée du Rhône puissent arroser leurs champs de maïs. Il n'y a pas un problème là? Voilà. Nous, on va se retrouver dans 6 mois. Comment on va produire notre pain? Nos greniers sont vides. Et en plus, si on se tape une mauvaise récolte cet été, comment on produit notre pain dans 6 mois? Et ça, c'est une autre problématique, et ça se gère au niveau local. C'est un autre niveau de réflexion, mais il faut le mesurer tout de suite, et il faut prendre les bonnes décisions tout de suite. Ça, je suis désolée, c'est de la politique.
À l'heure où les producteurs de farine du Diwa disent, nous en 10 ans, on a perdu 30% de notre production du fait du dérèglement climatique, parce qu'on produit moins de céréales, donc moins de farine, et qu'on n'arrive plus à avoir un taux de rentabilité qui est suffisant pour continuer. Donc, il y a des impacts globaux en plus sur le territoire, ouais, qui font que ça devient de plus en plus compliqué même de produire ce produit de base qui a été un des premiers à être pillé.
Je suis bien content que tu en parles, parce qu'après la bétonisation des sols et la sauvegarde agricole, il y avait bien l'eau qui est oui, finalement, je crois, avant ça, le premier problème du département.
Clairement, tu regardes l'état de la tête de la rivière Drôme actuellement. Enfin, voilà, je pense que quand ça fait quelques années qu'on habite ici et qu'on voit la tête de la rivière là actuellement, et c'est pas les quelques pluies qui a eu lieu là dernièrement qui vont régler le problème. Il y a aussi ces choses là qu'il faut prendre en compte. Alors, tu me demandais de conclure. Moi, en conclusion, je dirais c'est pour ça que je voulais absolument te parler. Ce qu'on a mis en place là, c'est un micro truc. On va pas s'appêter. On a fait un tout petit truc. Mais ce tout petit projet a une résonance en fait qu'il faut mesurer. Il a mis à jour des enjeux qui sont importants et dont du citoyen au producteur, au directeur, allez, on y va, d'Intermarché, au directeur de la Carline et aux responsables politiques, là, faut qu'ils se saisissent, en fait, de ce que notre micro-projet a mis à jour, qui existait avant, hein, c'est bon, on n'invente pas la roue, là.
Et t'es prêt à y mettre encore de l'énergie?
Très, 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 très bonne question. Je reprends le boulot dans 10 jours. Donc effectivement, mon temps disponible pour me pencher sur toutes ces questions va être à nouveau réduit, puis mon esprit va être occupé par d'autres problématiques, et puis je suis une maman de 2 enfants, donc là on va retourner un petit peu dans un rythme voilà, plus dense. Je ne suis pas investie dans une association, je ne suis pas investie dans une liste qui est partie pour les municipales, et je l'assume complètement. C'est pas des endroits où moi j'ai eu envie de mettre de l'énergie. Et c'est important aussi à pointer. J'ai mis une énergie qui a duré juste 3 semaines, on va dire. C'est ma réalité aussi qui fait que j'ai pas le temps de...
Mais t'appelles les gens à y aller. Alors, est-ce que t'as de l'espoir pour qu'ils y aillent?
J'appelle les gens à prendre conscience de cette petite interstice où on peut agir. Moi, j'ai eu une petite interstice de 3 semaines où j'ai pu agir. C'est comme ça. Maintenant, si ce que j'ai fait sème des graines dans l'esprit des autres, moi, je veux juste que les gens ne soient pas résignés, se disent pas « les problèmes sont trop énormes, je ne peux rien faire ». C'est pas vrai. On peut tous faire quelque chose à un moment donné. Et même si ce sont des micro-choses, ça résonne au niveau du territoire. Et d'ailleurs, là, on peut ouvrir aussi à ce qui se passe au niveau des commerçants et des artisans. Le site internet a énormément plu aux commerçants et aux artisans Et aussi, pas que le site internet, en fait, la mobilisation des citoyens, ça a touché les producteurs en premier qui ont dit c'est chouette de se sentir soutenu. Et puis il y a les artisans et les commerçants qui se sont dit purée, nous aussi on aimerait bien à un moment donné mettre en branle ce genre d'initiative. Et donc ils sont en train de s'organiser, de réfléchir à tout ça. Donc finalement des micro-projets comme ça, ça résonne sur plein de thématiques. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est pour moi, et c'est très important, on a les compétences, on a les connaissances. Il y a d'autres territoires qui ont enclenché des actions tout à fait à notre portée, qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on peut mettre en branle. Et chaque citoyen est détenteur à un endroit d'une capacité à agir. Et même si les problèmes sont énormes et si ces crises nous écrasent à certains moments de la journée, on a tous passé par ces moments-là, hein. Voilà, il y a des choses à faire et des choses qui sont tout à fait accessibles.
Merci Damien Hensen, Olivier Royer et Nathalie Allard. Prenez bien soin de vous.
Merci. Interview.
Ok, the bird. L'interview du jour.